Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Esprit libre avec Guillaume Durand. Sur Radio Classique.
Avec Eugénie Bastier, ma chère Eugénie, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique, La guerre des idées, votre livre, Robert Laffont, enquête au cœur de l'intelligentsia française.
Bonjour.
Sur la pandémie, bonjour. Sur la pandémie, Christophe, nous avons souvent parlé de son livre. Il est aussi là pour parler de la situation politique. Alors, on a deux choses qu'on va essayer de mêler ce matin pendant le temps qui nous est imparti. La première, c'est l'affaire de la sécurité avec des propos qui sont totalement contradictoires de Darmanin et de Xavier Bertrand ce matin. On écoute Darmanin, il était sur RTL quelques secondes et Bertrand était sur Europe 1, vous les écoutez tous les deux.
Moi, je voudrais souligner à quel point ce président de la République fait pour les forces de l'ordre. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Il y aura plus de policiers dans tous les commissariats de France, les grands comme les petits, que lorsqu'il est arrivé en responsabilité. Je prends l'exemple de la loi sécurité globale. Les remises de peine générales ont été abolies lorsqu'on s'attaque à des policiers ou à des gendarmes. C'est le président de la République qui l'a souhaité. Le président de la République, il est celui qui incarne aujourd'hui cette autorité.
Tout nous oppose. Nos parcours, notre vie, l'expérience. Parce que j'ai conscience depuis bien longtemps que ces questions de sécurité, c'est la seule façon de vivre en société. Et je vois les choses se dégrader. J'ai pris des initiatives en tant que président de région, mais c'est au sommet de l'État que ça se règle. Le président de la République, il est chef des armées. Il doit être aussi chef des forces de sécurité. Mais vous ne pouvez pas, en termes de sécurité, jouer sur le en même temps. Il faut de la clarté.
Voilà pour Xavier Bertrand. Eugénie, vous signez ce matin un papier sur des propos de Benoît Hamon que vous critiquez dans la ligne, dans les colonnes du Figaro. Et puis, il y a un autre papier de Jérôme Fourquet, justement, sur l'aspect sécurité comme étant la phase déterminante et discriminante de la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous souscrivez justement à l'analyse de Fourquet?
Oui, tout à fait. Je pense que la délinquance et l'insécurité sont des préoccupations aujourd'hui majeures des Français et qui d'ailleurs, comme l'explique bien Jérôme Fourquet, arrivent à percer le mur du son de la pandémie. C'est-à-dire qu'on a une actualité qui est saturée par la question du Covid. Et la seule actualité concurrente, c'est bien ces problèmes de sécurité qui arrivent à se frayer un passage dans l'actualité parce qu'effectivement, on a un espèce de bruit de fond de ces émeutes nocturnes dans certaines cités.
Et des décisions de justice bizarres.
Des décisions de justice bizarres, etc.
Ah, et bizarres, scandaleuses.
Bah, écoutez, oui, c'est vrai que concomitamment, on a eu cette décision dans l'affaire Sarah Halimi, dont le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé, donc c'est quand même problématique, et ça inquiète effectivement légitimement tous les Français. Et effectivement, cette décision sur Viry-Châtillon, où seulement 5 des 19 assaillants ont été punis, donc ce qui veut dire que la majorité des gens qui ont agressé ces policiers de manière extrêmement violente n'ont pas été punis. Alors, effectivement, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de preuves, qu'il y a eu la loi du silence qui a régné pendant l'instruction, mais ça montre quand même une défaite de l'État à punir les agresseurs de policiers.
Quand vous entendez Darmanin qui dit « en fait, on va faire plus qu'on n'a jamais fait ».
Écoutez, c'est vrai qu'en tout cas, les mots sont là. Effectivement, il y a une évolution du discours d'Emmanuel Macron. Quand on voit dans l'interview au Figaro qui parle du droit à une vie paisible, c'est quand même l'antithèse, de son discours de 2017. On est passé de la maximisation des possibles à la vie paisible, ce qui est quand même une évolution du discours assez vertigineuse. C'est-à-dire que, effectivement, d'un discours très libéral, axé sur l'émancipation individuelle, sur l'idée du flux, de la polyvalence des individus, au droit à une vie paisible, c'est-à-dire à la protection et à la lutte contre l'insécurité, à la fois physique et culturelle.
Christophe, hier, à votre place, se trouvait Luc Ferry. Il s'est étouffé de rigolade quand il a vu la une du Figaro, non pas à cause du Figaro, mais à cause du propos du président de la République, en disant, alors je résume le Ferry, ce qui va me valoir de me faire engueuler, mais en gros, il disait, c'est l'instigateur d'un gigantesque désordre avec les 80 km/h et les gilets jaunes, qui est en train de dire qu'il est là pour défendre la vie paisible. Je vous demande pas de juger Ferry, parce que autrement, vous allez vous faire engueuler dans les couloirs, mais est-ce qu'au fond, il y a une crédibilité réelle dans les annonces que vient de décrire justement Eugénie?
Il y a une crédibilité des chiffres, parce que c'est vrai que les effectifs sont là, et de ce côté-là, il y aura un bilan du quinquennat qui n'est pas mauvais, mais qui ne pourra pas se traduire en termes de résultats, parce qu'il faudra attendre des années pour voir si cette politique-là a des résultats. S'il l'avait commencé en 2017, il pourrait moissonner aujourd'hui. Là, cette fois-ci, c'est trop tard. Par ailleurs, c'est pas qu'une question d'effectifs et de quantité, c'est une question d'organisation. Est-ce qu'on organise bien notre police, notre sécurité sur le territoire? Quand vous parlez avec les spécialistes, ils vous disent que pour avoir un policier vraiment présent sur le terrain, il en faut 7 à cause des rotations, à cause du temps de travail. Bon, est-ce que les syndicats de policiers sont prêts à se mettre autour de la table pour remettre complètement à plat l'organisation du travail qui permet parfois à des policiers de faire leurs 35 heures en quelques jours et d'avoir une deuxième boulot par ailleurs, qui permet à beaucoup de syndicats d'entretenir leur clientèle? J'en suis pas sûr. Je pense que la police doit aussi remettre ses méthodes à plat, pas seulement pour maintenir l'ordre public dans les rues, mais aussi pour mieux occuper le terrain avec les effectifs qui sont les siens, les moyens qui sont les siens. Dont acte quand même au président de la République d'avoir compris en cours de quinquennat que c'était un sujet majeur qu'on ne pouvait pas traiter par l'irénisme et par l'optimisme. Maintenant, ne nous trompons pas, c'est une triangulation électorale. Il y a un territoire idéologique sécuritaire sur lequel un candidat de droite peut surgir. C'est pas pour rien que Xavier Bertrand a installé dès le début sa candidature sur le régalien, le sécuritaire, le répressif. Et donc Macron voit ça, il veut occuper le terrain. Il veut pas qu'un Wauquiez, un Bertrand, une Pécresse puisse se crédibiliser face à lui sur ce terrain-là. Il ne craint pas la gauche, elle restera divisée. Il craint la droite dans une France de droite. Donc Emmanuel Macron est passé du « et en même temps » à droite toute. Voilà. Pour 6 mois, pour 9 mois, pour la campagne présidentielle. Vous verrez qu'entre les deux tours, il saura y faire. C'est une tactique électorale.
Eugénie, la guerre des idées, je reviens au livre. Je disais tout à l'heure que vous parliez de déclarations de Benoît Hamon faisant un parallèle entre le judéo-bolchevisme et l'islamo-gauchisme, de ce que vous critiquez vertement. Alors en fait, dans cette bataille et cette guerre des idées, est-ce que vous vous adressez à une gauche qui serait à l'origine justement des grands mouvements comme l'intersectionnalité ou d'autres qui sont liés à la colonisation, au woke, etc., etc. Est-ce que vous vous intéressez à cette gauche, mais cette gauche, elle est totalement en décrépitude? On a un exemple français, ils sont incapables de s'unir. Et un exemple international, c'est la fin des Castro, qui a quand même été une sorte de mythe mondial. Ou est-ce qu'au fond, vous vous adressez à la nouvelle culture américaine? Parce que c'est pas le même objectif.
Non, mais je crois
c'est pas exactement les mêmes.
Je crois qu'aujourd'hui, si la gauche est aussi à la peine dans les sondages, on voit 28% quand même de l'ensemble des forces de gauche aujourd'hui en France, ce qui est quand même un score, il faut le rappeler, historiquement bas. Jamais peut-être elle n'a été aussi bas. Et il faut s'interroger sur les raisons profondes. Et je pense qu'effectivement, cette gauche-là s'est complètement déconnectée des préoccupations concrètes et immédiates des citoyens, qui sont effectivement la sécurité, l'angoisse économique, hein, effectivement, la fin du
chômage,
mois, le chômage, la pandémie, etc. Quel est le discours de la gauche sur la pandémie aujourd'hui? Vous sauriez me dire ce que pense Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il faut faire pendant la pandémie?
Il a comparé, vous savez, vous vous souvenez de sa petite phrase sur son congélateur et la façon dont il fallait garder les vaccins.
Il y a aucun discours clair. On ne sait pas, par exemple, si la gauche prône davantage de liberté, un discours de liberté, ou davantage de confinement. C'est très très flou. Elle n'a aucun discours lisible, par exemple, sur le sujet majeur du moment. Et effectivement, en fait, on dit que la droite gagne la bataille des idées, mais par exemple en économie, les idées de gauche, c'est-à-dire le retour de l'État dans l'économie, n'ont jamais été aussi présentes.
L'argent public, le déficit,
etc., qui étaient aujourd'hui, Emmanuel Macron laisse filer la dette comme jamais Jean-Luc Mélenchon en aurait rêvé dans son programme. Donc c'est assez paradoxal. Effectivement, sur la question régalien, la droite gagne la bataille des idées, mais sur l'économie, les libéraux sont complètement à la peine. Aux États-Unis, Joe Biden fait une rupture totale avec
La somme est colossale.
Voilà, des sommes colossales. Donc, effectivement, c'est à double tranchant. Et donc, la gauche, qui finalement n'a plus rien à dire sur le plan économique, puisque effectivement Emmanuel Macron a acté le retour de l'État dans l'économie, eh bien se concentre sur des batailles culturelles picrocollines, sur le woke, sur les discriminations, sur l'antiracisme, qui effectivement ne concernent pas véritablement.
Qui sont combattus aujourd'hui. Je sais pas. On ne peut pas mettre à égalité, finalement, des minorités comme celle de l'UNEF, même si elles sont reprises par le New York Times, et un discours qui est celui de Zemmour, qui est plutôt un discours dominant dans les médias. Je parle des gens qui ont un dénominateur d'opinion.
Oui, mais justement, regardez quand vous avez Benoît Hamon, effectivement, qui compare l'islamo-gauchisme.
Mais il n'est plus rien.
Oui, mais c'est quand même l'ancien
parti. Il a fait 6% à la dernière présidentielle.
Mais c'est justement parce qu'il tient ce discours-là qu'il n'est plus rien. C'est parce qu'il tient un discours ultra-minoritaire et qui est très éloigné des préoccupations concrètes des gens, qui devient...
Il n'est pas plus rien comme homme, je ne voudrais pas être blessant, mais il est plus rien comme homme politique.
Et évidemment, il devrait s'interroger et prendre conscience, faire un aggiornamento politique pour prendre conscience pourquoi la gauche en est arrivée là.
Cette culture-là, cette idéologie, d'évidence, elle gangrène la gauche de l'intérieur. C'est vrai qu'elle l'autodétruit et ils ont perdu complètement leur boussole de ce côté-là, c'est évident. Mais elle a aussi un autre impact, parce qu'elle ne touche pas que les politiques, mais aussi l'université, l'intelligentsia. C'est que peut-être que ce risque de l'américanisation des valeurs est en train de pousser une partie de l'électorat de droite qui ne serait jamais passée au vote Le Pen vers ce vote Le Pen. C'est-à-dire que tout ce qu'on a commenté tout à l'heure, la sécurité comme priorité, est peut-être un faux-né. Oui, les électorats mettent la sécurité en priorité dans quasiment tous les électorats, droite, en marche, c'est le cas. au FN, c'est l'immigration qui est devant. Peut-être que c'est parce qu'ils n'osent pas dire, les gens, que c'est l'identité qui les motivera pour le vote. Mmh. Et l'identité, perturbée pour eux par le risque migratoire, mais aussi par l'arrivée, par l'intelligentsia de cette culture woke, de cette cancel culture. Mmh. Et que face à ça, presque dans un mouvement de panique, ils seraient prêts peut-être à franchir le cap et à voter pour Marine Le Pen, qu'il ne considère ni compétente, ni efficace dans son programme, ni capable de rassembler une équipe, mais qui serait comme une espèce de vaccin contre la cancel culture.
Quand je lui pose la question, par exemple, puisque lui, justement, est dans le combat frontal sur ces idées que vous venez d'évoquer, quand on lui demande alors Le Pen ou pas Le Pen, il ne se prononce pas, il ne peut pas se prononcer.
Vous voyez, donc
il n'est pas encore temps, on verra peut-être un jour, donc, jamais, on ne sait pas.
C'était impossible, c'est devenu improbable, mais quand même, on a franchi, et je pense que tous ces débats autour de la cancel culture ont participé, si j'ose dire, Assa Traoré et Camélia Jordana, sans le vouloir bien sûr, font campagne pour Marine Le Pen.
Non, voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a même une droitisation d'En Marche. Quand vous voyez par exemple le parcours de quelqu'un comme Marlène Schiappa, qui était au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, placée comme la personnalité de gauche et qui aujourd'hui est taxée justement par beaucoup de féministes, beaucoup d'antiracistes, comme quelqu'un appartenant au camp réactionnaire parce qu'elle a un discours très ferme sur l'islam. Quand vous voyez qu'une partie des députés En Marche ont proposé une loi pour interdire l'écriture inclusive, par exemple, vous voyez que ces sujets-là, il y a aussi une droitisation même de la marque Macron et de En Marche qui est réelle.
Il y a 25 ans, Jean d'Ormesson, à la une du Figaro, avait fait un article « Suis-je socialiste ?» parce qu'il considérait que le gouvernement de Jospin, avec Strauss-Kahn à l'économie, Chevènement à la police, finalement avait conquis les territoires de la droite et que la droite n'existait plus. Aujourd'hui, on pourrait presque faire l'inverse, parce que c'est vrai que le macronisme a colonisé la gauche sur l'aspect argent public, déficit de l'État, donc quelqu'un de gauche modérée, un rancardien, pourrait dire « je suis macroniste », et il essaye de coloniser la droite avec les terrains de la laïcité, de la sécurité, de Darmanin, Schiappa et quelques autres. Peut-être qu'il y a une sorte d'éponge macroniste qui s'étend sur le pays. Est-ce que c'est un « sauf qui peut », parce que le président sait bien qu'il sera très difficile d'être réélu, vu son discrédit personnel, ou est-ce que c'est un vrai moment politique dans notre pays où, hors du macronisme, rien n'arrive à pousser? On verra dans 9 mois.
Dernière question à vous, Eugénie, dans cette guerre des idées. Vous avez rencontré beaucoup d'intellectuels. Quel est, d'après vous, celui qui, au niveau européen, joue le rôle le plus important? Je dis évidemment d'après vous.
C'est une question difficile parce que aujourd'hui, malheureusement, l'intelligence française est assez franco-centrée. Il y a peu de traductions à l'étranger. Mais c'est un peu le cas, d'ailleurs, dans chaque pays. On lit peu d'intellectuels américains en France. Donc j'aurais du mal à répondre à cette question. Les plus traduits à l'étranger, paradoxalement, c'est des penseurs de gauche, voire d'extrême gauche, comme Alain Badiou ou Jacques Rancière. Et au niveau européen, j'ai du mal à savoir vraiment qui aurait une influence hors de nos frontières. Et c'est un peu d'ailleurs le défaut du débat français.
On se souvient par exemple que le président de la République avait dit « moi le seul intellectuel qui m'intéresse, je parlais des philosophes, c'est Jürgen Habermas ».
Voilà, c'est un patriotisme constitutionnel qui est vraiment l'espèce d'idée que nous n'allons, que l'identité européenne n'existe pas, qu'elle est juste qu'elle ne se situe que dans le droit, c'est Habermas, et qui effectivement avait séduit Macron, qui lui-même avait été très méprisant envers les intellectuels français. C'est une vraie question, je ne sais pas, finalement. Je sais que Michel Onfray, par exemple, est assez lu en Italie. Faudrait examiner la question plus en profondeur.
Il y a 116 ans, naissait Henri de Monterland. C'est une forme de droite qui, elle aussi, a disparu.
8h59 sur l'antenne de Radio Classique. Merci à Eugénie. Le livre s'appelle « La guerre des idées ». Il est publié aux éditions Robert Laffont, au cœur de l'intelligentsia française. Et le livre de Christophe, vous le connaissez car nous en avons beaucoup parlé, il s'agit de la tyrannie, donc de cette fameuse pandémie avec, d'après ce qu'a dit Olivier Léveran au Télégramme de Brest, une sorte de recul. Enfin, il observerait une certaine forme de recul grâce à la progression de la vaccination. Affaire à suivre. 8h59, Mélanie Fachin pour le journal de 9h. Merci à tous les deux.